Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Crépuscule de ma vie, je suis dérangée par le retour sous une forme aseptisée d'une psychiatrie asilaire, sécuritaire et bureaucratique où le souci de rentabilité et de conformité sociale ainsi que la crainte paralysante du procès empêchent toute prise de risque et fossilisent l'action. Alors que la démocratie est en crise, que l'économie flageole et qu'une réaction se dessine contre les conquêtes sociétales des décennies précédentes, la psychiatrie, contestée à la fois par ses usagers et par ses financeurs, attaquée par les avancées de l'imagerie médicale et de la génétique, est en quête de légitimité. Jacques Hochmann est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Les arrangements de la mémoire », sous-titre « Autobiographie d'un psychiatre dérangé ». Et comme chaque soir, nous commençons en musique avec Jeanne Moreau.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'a, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait, chaque jour en se rasant.
Vous souvenez-vous des rêves que vous avez faits cette nuit, Jacques Hochmann?
Non, je crois qu'en vieillissant, on oublie beaucoup ses rêves. Et honnêtement, je ne me rappelle pas mes rêves de cette nuit.
Ah bon? Non. Le rêve appartient seulement à la jeunesse?
Il me semble qu'autrefois, je me rappelais plus de mes rêves. Là, quelquefois, ça arrive, un rêve très marquant, Là, vous me prenez vraiment au dépourvu.
Avez-vous l'impression d'avoir la mémoire qui flanche? Moi, je ne l'ai pas eue en lisant votre livre.
Alors, je crois que la mémoire flanche chez tout le monde. Et ce qu'il y a de très beau dans cette chanson, c'est d'évoquer cela. C'est-à-dire que notre mémoire, c'est toujours une espèce de construction. C'est un récit qu'on se fait à soi-même. C'est une histoire qu'on se raconte. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont vraies dans cette histoire. Beaucoup de choses sont vraies. Mais je crois qu'il y a aussi des arrangements. Et c'est un peu... Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, d'ailleurs, c'est en reconstituant ma mémoire, en essayant de raconter une partie de ma vie, un peu en pointillé, c'est de aussi de laisser la place à ces arrangements et laisser aussi des trous que le lecteur peut compléter de lui-même, enfin comme quand on lit un roman. Je crois que c'est la proximité quand même entre une histoire qu'on se raconte à soi-même et puis une œuvre de fiction.
Savez-vous qui vous êtes, comme vient de le chanter merveilleusement Jeanne Moreau ?
Bon, j'essaye de savoir qui je suis. En tout cas, j'essaye de reconstruire dans ce livre un peu ce que je pense être, enfin l'image que je voudrais donner de moi. Puis l'image que
Mais non, justement,
aussi.
C'est pas du tout comme ça que je l'ai lu,
ah
votre
bon
livre.
Ah bon,
je l'ai lu comme une méthode très scrupuleuse vis-à-vis de vous-même, de ne pas vous raconter d'histoire.
Oui, mais enfin,
d'être en surveillance de vous-même.
J'essaye de me surveiller un peu quand même, mais forcément, il y a toujours un effet de rhétorique, si vous voulez, d'essayer que ça soit aussi beau que possible, de chercher une élégance du style. Et dans tout ça, il y a quand même un arrangement, malgré tout.
Enfant souffrant ?
Alors, c'est vrai que j'ai eu une enfance un peu difficile du fait de la guerre, parce que j'étais ce qu'on appelle un enfant juif caché sous une fausse identité pendant une partie de la guerre. Mes parents nous ont beaucoup aidés, ma sœur et moi, parce qu'ils ont essayé de maintenir autour de nous une aura de calme quand même et de filtrer un peu tout ce qui se passait autour. Malgré ça, il y a eu un moment où il a fallu qu'ils se séparent de nous et nous placent dans des endroits protégés et clandestins.
Que vous ont-ils dit ? Ils vous ont expliqué les raisons
oui,
pour lesquelles
oui,
vous
ah,
étiez
oui.
caché ?
Ah oui, ça, ils nous ont expliqué. Si vous voulez, c'est d'ailleurs assez curieux parce que, bon, j'étais né dans une famille juive totalement non pratiquante et sans recevoir aucune éducation religieuse. Et puis, vers mes 7-8 ans, c'est-à-dire au moment où les... Enfin, comme on était de nationalité française et qu'on était en zone libre, c'est seulement à partir de 42 qu'on a commencé à être en situation difficile, dangereuse. Et à ce moment-là, mon père m'a pris à part et m'a raconté, m'a dit que j'étais juif, parce que j'avais vaguement une idée de ça. Mes parents allaient une fois par an pour Yom Kippour à la synagogue et nous emmenaient. Mais non, autrement, c'était pas quelque chose qui tenait une très grande part dans ma vie. Tout le reste de mes fréquentations étaient des enfants non juifs. Pour Noël, on avait des cadeaux comme tout le monde. On fêtait, on chantait mon beau sapin comme tout le monde. Et puis un jour, mon père nous a pris, m'a pris moi. Ma sœur était plus petite. M'a pris moi et m'a raconté ce que c'était que les juifs. Il a essayé de m'expliquer que c'était un peuple. Il en a montré d'ailleurs les aspects positifs en me disant qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été célèbres parmi ces juifs, mais qu'il y avait aussi beaucoup de persécutions. Il m'a expliqué ce que c'était les Allemands. Et puis il m'a parlé de Hitler. Hitler qui d'ailleurs dans la maison avait une particularité, c'est qu'il était représenté par un cactus extrêmement piquant auquel mes parents avaient donné le nom d'Hitler, qu'ils avaient dû acheter avant la guerre, je pense. Et il fallait surtout pas toucher ce cactus. Voilà un peu si vous voulez.
Vous êtes appelé comment ? Pendant ces années-là ?
Alors, je m'appelais toujours Hochman, mais ça s'écrivait différemment. Ça s'écrivait H-A-U-Q-E-M-A-N-S. Et j'étais censé avoir une origine flamande, enfin nordiste.
Vous pensez que cet épisode de votre vie a construit votre vocation de devenir psychiatre ?
Je ne sais pas. Ma vocation, devenir psychiatre...
Psychiatre artisan, comme vous le dites
oui.
fièrement.
Enfin, c'est compliqué comme on devient psychiatre. Mais je pense quand même que cette espèce de proximité avec cette sorte de folie collective qu'était l'antisémitisme et qu'a été la Shoah a peut-être joué un rôle dans enfin, je n'oserais pas dire ma vocation, mais enfin dans le choix du métier, oui.
Je voudrais qu'on écoute la voix d'un grand monsieur qui était écrivain de théâtre plus particulièrement. Oui. Il s'est éteint ce week-end. C'était un monsieur immense par bien des côtés, à la fois pour ses qualités d'écriture, mais aussi pour sa mise en perspective d'un métier qui était celui de patron dans les années 50-60 et qui lui aussi a été obligé de changer de nom pour des raisons identiques aux vôtres. Nous allons écouter la voix de Michel Vinaver, c'est une archive INA du 9 juin 2016.
Ce n'est pas le nom de mon père, non, je trouve que c'est le nom de ma mère. Non, mon nom est Grimbert J'ai été invité, quand j'avais 13 ans, à sortir des rangs de la classe du collège où j'étais à ce moment-là, pour ne pas participer au salut aux couleurs. Et ça a été un peu une révélation pour moi. Il s'en est suivi ensuite que ma famille s'est exilée, partie aux États-Unis en avril 41.
Vous saviez que vous étiez juif ?
Autant que je puisse m'en souvenir très précisément, je dirais non. Je ne le savais pas. Ou si je le savais, ça faisait partie des choses qui n'avaient strictement aucun relief pour moi.
Donc c'est quand le professeur dans votre classe vous a demandé de sortir du rang que vous avez compris ?
En tout cas, je dirais que cet épisode, cet incident a été le déclic d'une conscience que quelque chose me différenciait des autres. Et il s'en est suivi ensuite un certain nombre de prises de conscience. Ou alors là, les choses devenaient tout à fait évidentes, puisque mes parents devenaient l'un et l'autre incapacités dans leur métier, n'ayant plus le droit d'exercer leur métier. Ma mère étant avocate, mon père étant antiquaire, donc commerçant. Et voilà, c'était deux métiers qui ne pouvaient plus être exercés par des juifs.
De plus,
bon, ce n'était que le tout début, évidemment, d'une chaîne de décrets, et puis ensuite des événements qu'on sait, mais...
C'était les lois anti-juives de 1941.
Ouais. Voilà.
Oui, mais ce qui est absolument incroyable dans votre histoire familiale, Michel Vinaver, c'est que auparavant, vos grands-parents étaient arrivés en France, venus de Russie, pensant pouvoir être accueillis et intégrés à cette nation qu'était la France.
Ah, ils ont été accueillis et, je dirais, intégrés. Il s'est quand même écoulé entre, disons, 1920 et 1940, un gros paquet de 20 années pendant lequel il n'y avait aucune raison pour eux d'imaginer qu'il y aurait une répétition de cette nécessité de repartir en exil.
Nous venons d'entendre la voix de Michel Vinaver. Son itinéraire présente des points de résonance avec le vôtre.
Et j'ai été très ému là en entendant parce que j'ai eu, mutatis mutandis, la même expérience, si vous voulez. J'étais à l'école primaire, j'étais plus jeune que lui, je pense. J'étais à l'école primaire et j'étais bon élève. Et la tradition dans cette école d'un petit village était que le meilleur élève de la classe, celui qui avait les meilleures notes pendant la semaine, hissait les couleurs. Et le maire du village est intervenu auprès du directeur de l'école en disant que c'était un scandale que je sois appelé à hisser les couleurs. On m'a également interdit de drapeau. Donc c'était assez émouvant d'entendre une expérience effectivement voisine.
Michel Vinaver a d'abord commencé comme romancier. Il a été publié d'ailleurs par Albert Camus le premier, avec son premier roman qui s'intitulait L'Atome. Et puis ensuite, il y a commencé à avoir cette prolifération de multiplicité de personnages à l'intérieur de ses pièces de théâtre. Par-dessus bord, l'ordinaire, tout un monde qui nous a permis de découvrir de l'intérieur le monde de l'usine. Et outre sa dimension imaginative très prolifique, outre la caractérisation des personnages qu'a pu inventer Michel Vinaver tout au long de son existence, il y avait la double vie. C'est-à-dire que Michel Vinaver était PDG de chez Gillette.
Ah oui.
Et en même temps, décrivait le soir, couché sur le papier... finalement un univers onirique qui nous a permis de comprendre ce qui se passait dans une usine au quotidien. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, d'une double vie, Jacques Hockmann ? Moi, je dirais peut-être triple vie.
Oui, enfin, j'ai eu une vie familiale. Je me suis beaucoup intéressé à la littérature très tôt. Et puis, j'ai eu une vie de médecin, de soignant. Qui m'a amené à avoir alors à ce moment-là ce qu'on appelle une double vie, puisque dans mon travail j'ai rencontré une psychologue qui s'appelait Annette André, et qui a eu une très, enfin, qui réalisait un petit peu mon idéal du soin dans une certaine mesure, et qui faisait des choses que je me sentais moi-même incapable de faire, et que tout en gardant ma première vie avec une femme que j'aimais, avec mes enfants, j'ai eu avec elle une liaison, qui a d'ailleurs donné naissance à deux autres enfants qui me sont également très chers. Donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies.
Et cette notion de secret, vous y tenez en tant que psychiatre? Vous pensez que c'est une notion extrêmement importante? Je ne parle pas simplement du secret médical, mais du secret vis-à-vis des autres, de la possibilité d'avoir les vies qu'on veut sans forcément tout dévoiler, alors que nous vivons dans une modernité un peu bruyante, avec injonction de la transparence.
Voilà, j'allais dire ça. C'est vrai qu'il y a maintenant une espèce d'injonction de la transparence, et qu'il y a d'ailleurs tout un courant psychanalytique qui a beaucoup stigmatisé le secret. Le secret, le non-dit, qui était considéré un petit peu comme des éléments pathogènes dans les existences. Alors, il est certain qu'il vaut peut-être pas mieux de pas accumuler des secrets de famille, mais d'ailleurs, ça n'a pas été mon cas, puisque d'emblée, lorsque mes enfants d'une autre union sont nés, leur existence a été connue de mes autres enfants aussi. Mais il y a eu certainement, je pense, une espèce d'excès dans ce choix de la transparence, et je crois effectivement qu'il est important que chacun puisse aussi cultiver son intimité, ses secrets, son jardin privé en quelque sorte.
Oui, mais vous, Jacques Hochmann, en tant que psychiatre, en tant que psychanalyste, en tant que psychiatre-psychanalyste, ayant toujours défendu la psychanalyse à l'intérieur d'un champ médical qui refuse de plus en plus... la possibilité aux sciences humaines de pouvoir apporter du bien-être, de la compréhension, on a l'impression que vous êtes aussi un leveur de secrets, un décrypteur de secrets.
Oui, dans une certaine mesure. Mais, si vous voulez, la pratique que moi j'ai eu une pratique psychanalytique classique avec des patients d'analyse, dont vous auriez pas d'analyse véritable, de cure analytique, sans maintenir le secret des séances, enfin un espace de discrétion parfaite entre l'analyste et son patient. Mais la très grande partie de mon activité professionnelle a été consacrée à soigner ce qu'on appelle des fous, enfin des malades mentaux, soit adulte pendant une première partie de ma vie, soit ensuite beaucoup des enfants, et en particulier des enfants autistes. Et là, je me suis aperçu, contrairement, je pense, à un certain nombre de mes collègues, que le fait de pouvoir... à une certaine époque, une espèce de volonté de calquer les modèles de la cure type, qui, elle, ne peut exister que par le secret, sur cette autre pratique, avec des malades d'un autre style. Et de ce fait, on a abouti à une espèce d'excès, en particulier par rapport aux familles. On ne voulait pas dire aux familles ce qui se passait dans le soin avec l'enfant, parce qu'il fallait que ce soit un espace secret. Moi, j'ai beaucoup combattu ça. Et j'ai pensé qu'on ne pouvait pas soigner un enfant sans la collaboration très étroite avec ses parents, et sans forcément, sinon, leur révéler la totalité de ce qui se disait entre l'enfant et sa thérapeute, par exemple, du moins faire participer quand même assez largement les parents à ce que l'enfant vivait par ailleurs. Et j'ai beaucoup insisté sur la construction d'une espèce de récit de vie chez ces enfants et du rôle que jouent les thérapeutes dans la construction de ce récit de vie. Or, il est impossible de construire ce type de récit de vie si tous les éléments qui sont autour de l'enfant, ses parents, ses enseignants, ne communiquent pas entre eux, n'échangent pas entre eux très librement. Et s'ils sont paralysés par une espèce de mythe du secret qui introduit à ce moment-là des cloisonnements. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
Si, c'est très clair. Et je vous propose d'écouter la voix de Jean-Paul Sartre qui va évoquer le concept de secret. C'est une archive INA du 1er juillet 1975 et c'était au micro de Michel Conta.
Personnellement, j'estime d'abord que parler de soi n'est pas présomptueux parce que n'importe qui devrait pouvoir parler de soi devant des scénographes ou des intervieweurs et dire le plus profond de soi. Selon moi, une erreur des rapports entre les gens, c'est que chacun conserve, par rapport à l'autre, quelque chose de caché, de secret. Alors ça, ça me paraît une erreur d'où peut-être on sortira un jour. Je pense que la transparence doit se substituer au secret. Par conséquent, j'imagine assez bien le jour où deux hommes n'auront plus aucun secret l'un pour l'autre, parce qu'ils n'en auront plus pour personne. Parce que la vie subjective, aussi bien que la vie objective, sera offerte, donnée. Je pense que il est impossible d'admettre que nous livrons notre corps comme nous le livrons et que nous cachions nos idées. Étant donné que pour moi, entre le corps et les idées, il n'y a pas de différence de nature.
Nous venons d'entendre la voix de Jean-Paul Sartre et c'est une archive absolument incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord avec les affirmations de Jean-Paul Sartre ?
Entièrement. Et c'est
entre le corps et les idées ?
Oui, je crois.
Il a raison.
Je crois qu'il a raison. Et c'est l'occasion pour moi de dire, vous me placiez tout à l'heure fort justement dans la filiation de la psychanalyse, et c'est vrai. Mais je crois que Sartre m'a autant influencé. Sartre et Ricoeur, enfin je veux dire, donc à la fois la phénoménologie et l'existentialisme m'ont autant influencé, je pense, dans mon travail et dans ma maturation personnelle. Que la psychanalyse.
Mais ce livre-là qui sort ces jours-ci, Jacques Hockmann, n'est-il pas aussi une tentative pour exhumer les derniers secrets ? Je vais parler de deux secrets que vous réussissez à transmettre. Le secret d'une enfance cachée, mais qui a eu des conséquences aussi plus tardivement, parce que vous avez appris qu'une partie de votre famille a été exterminé dans les camps de concentration, bien plus tard.
Un peu plus tard.
Et donc là, il y a eu un secret qui a été bien gardé, mais qui a été levé. Et puis, il y a aussi le secret de pas avoir le secret comme méthode de soin.
Oui, est-ce que c'est un secret, ça ? Je ne sais pas.
Dans une période où votre pratique médicale de psychiatre... ne vous autorisez pas tellement à le faire. Vous avez été une sorte de d'abord de marginal, et puis ensuite vous avez essayé de pénétrer l'institution par les succès que vous avez rencontrés.
Mais c'est vrai que dans l'institution, on a toujours cherché à partager beaucoup les uns avec les autres, ce qu'on vivait avec nos patients, et par conséquent, à ne pas se laisser paralyser par une espèce de dictat du secret de la séance. Et ça, c'est tout à fait juste.
Et vous avez gagné en partie ce combat.
C'est-à-dire
vous avez fait évoluer la psychiatrie vers des normes moins mécanicistes et moins dominatrices d'une soi-disant raison, avec un grand R.
J'ai été de ceux-là, j'étais pas tout seul, et c'était peut-être aussi un petit peu dans l'air du temps. Ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle a été tout un mouvement extrêmement vivant de la psychiatrie française des années... disons, de l'après-guerre jusque dans les années 80-90, et qui visait à ce que l'institution tout entière devienne un terrain de soins, et que par conséquent, on ne limite pas le lieu thérapeutique à ce qui se passait de secret entre une personne et une autre, et que ça nécessitait forcément beaucoup d'échanges entre tous les gens qui formaient autour du patient l'institution. Moi, ce que j'ai appelé l'institution mentale, ça a été un petit peu cette espèce de construction d'une histoire commune entre le patient et tous les interlocuteurs qu'il pouvait avoir autour de lui, que ce soit dans une institution résidentielle ou comme je l'ai surtout fait dans une institution de soins ambulatoires où les patients venaient quelques heures par jour, mais ne résidaient pas, quoi.
Et puis, il y a un autre secret qui est un secret familial. Jacques Hockmann, c'est celui d'un membre de votre famille. Je ne me souviens plus si c'était un cousin ou quelqu'un de plus éloigné, mais un enfant. Autrefois, on aurait dit un fou.
Ah!
Quelqu'un qui ne s'exprimait pas, comme vous, qui ne...
Alors, c'est pas un membre de ma famille, non. C'était dans un village où ma sœur avait été accueillie pendant la guerre dans une famille de paysans qui l'ont cachée, qui en a gardé d'ailleurs une très grande reconnaissance. Et puis ensuite, dans ce village, on est allé plusieurs fois en vacances. Et là, dans ce village, il y avait effectivement ce qu'on appelait à l'époque l'idiot du village, qui était un personnage extrêmement bizarre, qui avait un langage, qui parlait, mais qui était très très obsédé par les chemins de fer. Il demandait à tout le monde le nom des chefs de gare, des différentes gares un peu connues sur tout le réseau ferroviaire. Il errait dans le village en courant. Il émettait quelquefois des bruits un petit peu bizarres, un peu comme une sirène. Enfin, c'était un personnage très très étrange et qui m'a beaucoup frappé. Il était dans sa famille, chez sa sœur, qui s'en occupait énormément. Il m'a beaucoup frappé, et plus tard, lorsque j'ai rencontré des enfants autistes, peut-être qu'une partie de l'intérêt que j'ai trouvé dans l'autisme, auquel j'ai consacré une grande partie de ma vie professionnelle, a été marquée par ce premier personnage, effectivement.
Je vous propose d'écouter la voix de Michel Foucault, qui va nous parler justement des fous, au moment de la publication de son ouvrage qui s'intitulait « Folie et déraison ». C'est une archive INA datée de 1961, la voix de Michel Foucault.
Je crois que le XVIIe siècle représente précisément un tournant. Avant le XVIIe siècle, le fou a eu une existence entièrement libre. Il était en quelque sorte à la surface de la culture et il y vivait d'une présence extraordinairement visible. Il y avait des fêtes de fous. Le fou lui-même avait une place dans la littérature, et au fond, jusqu'à un certain point, le Don Quichotte de Cervantes peut s'inscrire dans toute cette grande tradition de la littérature de folie ou de la littérature sur la folie. Il y avait une iconographie de la folie, c'est Jérôme Bosch, c'est Bruegel également. Les villes avaient leurs fous qui étaient entretenus, qui étaient soignés, qui étaient jusqu'à un certain point honorés. Mais justement, je crois que ce qui a commencé à faire changer le statut du fou, c'est à partir du moment où la famille, sous sa forme bourgeoise, a pris dans la société une grande importance. Et c'est au XVIIe siècle, quand les normes économiques de la vie ont changé, à l'époque du mercantilisme, eh bien, le fou, personnage oisif, personnage qui dépensait de l'argent et qui ne rapportait rien, eh bien, le fou est devenu terriblement encombrant. Et la sensibilité sociale à la folie a changé en fonction, me semble-t-il, de ces phénomènes économiques.
Nous venons d'entendre la voix de Michel Foucault, qui fut le premier intellectuel à essayer de déplacer ce terme de fou dans tous les sens du terme et de nous le ramener à l'intérieur de notre raison occidentale, Jacques Hockmann. Qu'est-ce qu'un fou aujourd'hui, en 2022? Et que s'est-il passé dans les 40 dernières années? Pas forcément que du bien.
Alors, le livre de Michel Foucault, L'histoire de la folie, ça a été un coup de théâtre pour moi. Enfin, moi, je démarrais juste, c'était en 1961, si je me rappelle bien, qu'il est sorti. J'étais jeune interne, orienté vers la psychiatrie, et je commençais. Et je croyais, à cette époque, un peu naïvement, que, après une période de répression très forte, de la folie pendant presque tout le 19e siècle, à partir de la libération, il y avait une espèce de révolution, on appelait ça d'ailleurs la révolution psychiatrique, qui avait complètement changé le sort des fous. Alors, le livre de Michel Foucault, ça a été un coup de théâtre pour moi, parce que d'abord, je savais pas qu'il y avait eu toute cette répression pendant le 19e siècle. Pour moi, la psychiatrie, c'était une spécialité que je choisissais. Je pensais être dans la continuité de son histoire. C'est là que j'ai découvert que l'histoire de la psychiatrie est extrêmement sinusoïdale, par différence avec l'histoire de la médecine, qui est plutôt linéaire. La médecine a fait une espèce de progrès constant. Alors que là, il y a des périodes fastes, qui généralement correspondent aussi à des périodes politiques, qui sont plutôt des périodes de libération, de respect des droits de l'homme. La psychiatrie, telle que nous la connaissons, elle est née au moment de la Révolution française, en fait. Et puis, il y a des périodes de régression. Et toute la période, notamment du Deuxième Empire et même du début de la Troisième République, a été plutôt une période de répression et de régression de la folie. Donc tout ça, on le découvrait dans le livre de Foucault, mais ce qu'on découvrait aussi, c'est que même la psychiatrie qui s'était développée après la guerre, donc dans une période au contraire de libération, contenait en elle des germes de cette considération du fou comme un ailleurs, enfin comme n'appartenant presque pas à la condition humaine, enfin. Et donc ce livre a été extrêmement important pour moi. Par la suite, avec d'autres, on s'est un peu aperçu quand même que Foucault, avec tout son génie, avait enfourché un cheval qui était peut-être un peu unique et qui laissait peut-être un peu de côté. Pour Foucault, il n'y a pas de grande différence entre une psychiatrie libérale comme comme celle qui s'est instituée à partir des années 50, par exemple, et la psychiatrie antérieure très répressive. Il a un peu tout mis ensemble et sur ce plan-là, je serais peut-être un peu critique de lui. Mais vous me demandiez qu'est-ce que le fou aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je crois qu'on est retourné dans une période de régression, que pendant toute une période des années 70, ce qui a suivi mai 68, disons, où il y avait une tentative de voir dans le fou un semblable, enfin, même s'il raisonnait autrement, un être humain qui est un semblable, on re-rentre maintenant dans une période. C'est peut-être ce que vous disiez au début en introduction à notre entretien, où on ne considère plus que l'aspect organique, l'aspect cérébral qui existe. Il y a probablement des anomalies cérébrales qui peuvent conduire à la folie, mais maintenant il y a une sorte de domination du cérébral qui fait que la considération du fou comme un être humain semblable avec qui on entre en relation et avec qui la relation est l'élément essentiel du soin, c'est quelque chose qui tend peut-être un petit peu aujourd'hui à s'estomper, je crois.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Jacques Hockmann. Partita numéro 2 pour violon solo, dites la Chaconne, Jean-Sébastien Bach par Itzhak Perelman. Thank you.
La mère, qui avait elle-même très peu à donner, se retrouva donc dans la situation d'avoir à s'occuper à la fois de cet enfant, à un moment où il demandait particulièrement de soins, et de ce mari schizophrène qui demandait encore plus. Elle se sentit complètement piégée. Son seul désir était de se sortir de tout cela, mais elle avait bien trop de conscience pour abandonner son enfant. Ainsi, son seul espoir de s'en sortir, c'était que l'enfant puisse ne pas exister. Donc, la mère aurait préféré que Marcia n'existe pas, pour qu'elle ne soit plus ligotée au mari et à l'enfant. Le père aurait préféré que Marcia n'existe pas pour que sa femme puisse se consacrer entièrement à lui. Ainsi, dès sa plus tendre enfance, cet enfant reçut inconsciemment, à travers les émotions de ses parents, le message que tout le monde se trouverait beaucoup mieux si elle n'existait pas. Se retirer dans l'autisme infantile est en fait la manière la plus proche pour quelqu'un d'arriver à un état de non-existence tout en restant en vie, si on peut appeler cela vivre. Autre phénomène frappant, Marcia, qui avait parlé jusqu'à l'âge de 18 mois, parlait normalement en fait, cessa complètement de s'exprimer au moment de la deuxième dépression de son père, c'est-à-dire quand le message qu'elle ne devrait pas exister s'intensifia brutalement. Et elle ne retrouva le langage qu'après des années passées avec nous, bien des années plus tard.
Nous avons successivement entendu la partita numéro 2 pour violon de Bach, interprété par Itzhak Perelman, puis nous venons d'entendre la voix de Bruno Bettelheim, que vous avez reconnu, bien évidemment, Jacques Hockmann. Bruno Bettelheim, qui est très présent à l'intérieur des pages de votre autobiographie qui paraît ces jours-ci, car non seulement vous l'avez lu, non seulement vous l'avez connu, mais aussi vous avez travaillé avec lui. Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de Bruno Bettelheim, qui était beaucoup lu, commenté, analysé, enseigné à l'université il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années. Bruno Bettelheim était un grand psychanalyste, auteur d'un livre culte qui s'intitulait « La forteresse vide », mais qui a eu sa réputation entachée par différentes rumeurs, notamment après sa mort. Et vous revenez, en termes assez vifs, Jacques Hockmann, dans cet ouvrage, pour défendre son honneur et pour défendre aussi l'intensité de ses découvertes en ce qui concerne l'autisme infantile. Qui était Bruno Bettelheim?
Alors, Bruno Bettelheim était, à l'origine, c'est pas vraiment un psychanalyste, c'est un éducateur frotté de psychanalyse, qui était né à Vienne, qui a d'abord été arrêté par les nazis, interné dans un camp de concentration, qui a pu miraculeusement, c'est avant la guerre, hein, donc c'était encore pas les camps d'extermination, c'était juste après l'Anschluss, en somme, et qui a pu, miraculeusement, grâce à des amis américains, être extrait du camp de Dachau, je crois, et qui a pu donc gagner les États-Unis. Aux États-Unis, à la suite de différentes événements, il s'est trouvé le directeur d'une école expérimentale qui recevait des enfants ayant toutes sortes de difficultés, dont des enfants autistes, et qui était assimilé, qui était à la fois une école et un centre de formation qui était associé à l'Université de Chicago. Et dans cette école, il a développé tout un travail avec des enfants de toutes sortes, ayant des troubles de la personnalité, et en particulier avec des enfants autistes. Et il a écrit La forteresse vide, qui était un best-seller. Alors, vous avez pris dans La forteresse vide,
dans le film qui a été consacré par
Daniel Carlin, qui était dans ce film, vous avez pris un petit extrait où effectivement il tient des propos extrêmement négatifs sur la mère de Marcia.
Bon, si on qui était une enfant autiste.
Qui était une enfant autiste. Si l'on lit l'ensemble de son œuvre, il n'y a pas que ça chez Bézard. C'est vrai que dans certains cas, et en particulier dans le cas de cet enfant Marcia, il a mis très en cause, en somme, la pathologie maternelle, avec ce vœu que l'enfant n'existe pas. Dans le livre La forteresse vide, à d'autres endroits, il dit exactement le contraire, et il dit en particulier que aucun parent n'a voulu que son enfant soit autiste, et il félicite même certains psychanalystes qui ont bien disjoint l'origine de l'autisme de l'éventuelle pathologie maternelle. Il se trouve que, connaissant très bien Daniel Carlin, qui était de Lyon comme moi, j'ai pu entrer en contact direct avec Bruno Bettelheim, et nous l'avons invité à Lyon, et il est venu deux ans de suite travailler pendant 15 jours avec notre équipe. C'est-à-dire qu'on lui présentait des cas et il réagissait à ces cas, il nous disait un petit peu, donnait un peu des idées. Et je dois dire, dans la formation de notre esprit d'équipe, sa présence a joué un très grand rôle, et que je n'ai jamais entendu mettre en cause les parents. Jamais, jamais, comme en particulier jamais de cette façon vigoureuse par laquelle il met en cause la mère de Marcia. Nous, on lui doit beaucoup. On a vraiment appris à travailler avec lui. Et bon, il est ensuite arrivant très âgé, hémiplégique, malade, etc. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Et ce suicide a entraîné une espèce de réaction chez des gens qu'il portait au pinacle jusque-là. Et il y a eu toute une série de rumeurs sur lui. On l'a accusé d'être brutal avec les enfants, d'avoir menti sur ses diplômes. C'est vrai, il y a eu toute une campagne. Et actuellement, pour beaucoup de parents d'enfants autistes qui souvent n'ont même pas lu, mais ont entendu toutes ces rumeurs, et on les comprend, et qui sont des gens souvent en très grande souffrance, il est devenu le diable. À tel point que dans un dernier livre sur l'autisme, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, on parle de ses grandes oreilles, comme si, moi j'avais jamais remarqué qu'il avait des oreilles particulièrement volumineuses, mais on parlerait presque de ses vieux pieds fourchus, si vous voulez. Bettelheim, c'est devenu le diable.
Alors, je ne sais pas si Bettelheim est devenu le diable pour beaucoup de gens, mais en tout cas, je sais qu'il a été très important à l'intérieur de votre itinéraire médical et psychiatrique, pour les personnes qui travaillent avec vous, mais aussi pour vous, et que peut-être, mais vous aviez déjà le désir de comprendre l'autisme autrement, avant la rencontre avec Bettelheim, et je voudrais qu'on parle de votre proximité avec les enfants, et particulièrement avec les enfants autiste. Je voudrais qu'on parle de celui que vous décrivez à l'intérieur d'un de vos chapitres, et personnellement j'ai eu les larmes aux yeux en lisant ce chapitre, de celui qui s'appelle Alain, et qui s'autonome lui-même Alain Foutu. Et qui parle de la personne qui s'occupe de lui, la psychologue, qui s'appelle Annette, voiture Annette cassée, et qui se morigène toute la journée quand il fait quelque chose qu'il juge interdit, faut pas marcher sur les pelouses. Vous faites un portrait de cet Alain que vous avez tiré d'affaire grâce à votre écoute, à votre compréhension et peut-être à votre empathie, Jacques Hochmann.
J'ajouterai aussi grâce à ses parents. C'est parce que ses parents ont été aussi des agents extrêmement importants dans son progrès, l'ont soutenu, ont su inventer toutes sortes de petites tactiques personnelles pour faire face à ses difficultés, à ses particularités. Alain, ça a été un peu notre héros fondateur, si vous voulez. C'est le premier enfant autiste que j'ai rencontré, j'allais dire un petit peu par hasard. À l'époque, je faisais une consultation, surtout pour des enfants en difficulté scolaire. Et Alain n'avait jamais été scolarisé. Il avait des troubles très très importants et ses parents pensaient, espéraient. À l'époque, aujourd'hui, les enfants autistes, avec la diffusion médiatique qu'il y a eu sur l'autisme, sont repérés beaucoup plus tôt. Ils sont généralement diagnostiqués très précocement. Là, les parents s'étaient rendus compte qu'ils avaient un enfant pas comme les autres, mais ils le gardaient chez eux et ils espéraient que quand il se mettra à parler, tout irait bien. Et est arrivé l'âge de la scolarisation obligatoire, qui à l'époque n'était pas 3 ans comme aujourd'hui, mais 6 ans. Il est donc rentré à l'école primaire, et à la fin de la première matinée, la maîtresse a dit aux parents « Ou vous faites quelque chose pour le soigner, ou c'est moi qu'on hospitalise à l'hôpital psychiatrique avant la fin de l'année scolaire. » Parce qu'il s'était trouvé face à un enfant qui tournait en rond, qui jetait tout par terre, qui hurlait, enfin qui était horriblement mal. Donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Alain, qui était le premier enfant autiste que je rencontrais. Et à ce moment-là, j'ai d'abord essayé de le placer dans les institutions qui existaient autour, qui étaient surtout des institutions qui recevaient des trisomiques. Et partout, on me l'a refusé. Alors, je me suis trouvé face avec cet enfant. Annette André était une jeune infirmière. À l'époque, elle est devenue psychologue par la suite, mais c'était une jeune infirmière qui démarrait chez nous. Il y avait aussi Marie-Noëlle Redon, qui était une jeune orthophoniste. Et je leur ai dit, écoutez, tous les trois, on va essayer de faire quelque chose pour soulager cette famille. Donc, Annette a commencé par rencontrer Alain tous les jours, par le prendre 2 heures par jour, par se promener un petit peu avec lui. Elle n'avait pas beaucoup de formation dans ce domaine. Et Marie-Noëlle essayait de le rencontrer 2 ou 3 fois par semaine aussi, pour lui donner des embryons de langage et pour l'aider à parler. Puis une fois par semaine, on se rendait dans la famille et on essayait de se raconter avec les parents ce qu'on avait observé, ce qui s'était passé. Et progressivement, s'est mis en place comme ça un service de soins à ces enfants qui ensuite s'est accru d'une intégration à l'école. Grâce à l'Éducation nationale, on a pu créer des classes spéciales pour ces enfants à l'école. Et Alain, aujourd'hui, est un garçon qui a dépassé la cinquantaine et qui, bon, garde pas mal de particularités, mais mène une vie assez autonome dans un... Il travaille dans un établissement de soins, de travail adapté quand même, mais il mène une vie subnormale, je dirais.
Autre cause que vous avez embrassée, que vous avez défendue avec ardeur et enthousiasme, c'est celle de l'adolescence. Je vous propose d'écouter la voix de Marie-Rose Moreau, qui dirige actuellement la Maison de Solène à Paris, qui appelle à ce que l'enfance et l'adolescence deviennent une cause politique. C'était en 2017.
Moi, mon premier vœu, ce serait que l'enfance et l'adolescence deviennent une cause politique, un objet politique, mais complexe. Pas des fausses solutions, qu'elles soient, je sais pas, on a parfois des idées comme ça, magiques, neurobiologiques. En tout cas, il n'y a pas de choses simples, il n'y a pas de choses faciles, mais il faut qu'on se mette collectivement, et moi je crois au génie collectif dans ces questions. Collectivement, on doit pouvoir modifier, alléger, transformer le destin de nos enfants et nos adolescents, et surtout, faut pas renoncer. Moi, je suis optimiste sur ce point. Ne renonçons pas.
Marie-Rose Moreau est optimiste. Il nous reste plus que quelques petites minutes, Jacques Hochmann, pour dire vos vœux pour les années qui viennent. Vous stigmatisez une psychiatrie de plus en plus mécaniciste. Vous stigmatisez l'importance des sciences cognitives. Vous stigmatisez les prescriptions médicamenteuses qui tendent à endormir les gens qui ont fait, entre guillemets, un pas de côté, et alors qu'on devrait peut-être plus essayer de les comprendre. Êtes-vous optimiste et qu'appelez-vous de vos voeux?
Alors, je voudrais dire juste un mot sur les sciences cognitives. Je ne serai pas négatif sur les sciences cognitives. Je crois qu'elles peuvent nous faire de grands progrès, en particulier en comprenant mieux les symptômes. Ce que je conteste, ça serait leur dictature, si vous voulez, s'il n'y avait qu'elles. Mais elles peuvent nous apporter, et elles nous apportent déjà beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas confondre les sciences cognitives avec ce qu'on appelle aussi les thérapies comportementales et cognitives, qui en sont une application quelquefois un peu brutale et naïve. Alors, qu'est-ce que j'espère pour l'avenir? Ben, j'espère quand même qu'une psychiatrie d'inspiration relationnelle qui essaye de comprendre ce qui se passe entre le patient et ceux qu'il soigne, qui essaye de mettre en histoire progressivement. Je crois beaucoup à la fonction narrative, si vous voulez. Je crois beaucoup aux histoires qu'on peut aider les patients à se raconter sur eux-mêmes. Et si ça repart, et je crois que ça repart un tout petit peu aujourd'hui, à ce moment-là, je retrouverai peut-être un peu d'optimisme.
Ben merci infiniment, Jacques Hochmann. Je rappelle que votre livre sort ces jours-ci, qui s'intitule « Les arrangements de la mémoire, autobiographie d'un psychiatre dérangé » et qu'il vient de paraître aux éditions Odile Jacob.
Se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes s'embrouillent, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous.
Et c'est avec Au Clou, en duo avec Pomme, que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Jacques Hochmann. Merci à Thomas Langlin qui est à la régie technique. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Marie Clément. Et bien sûr à Lilian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous pour un nouveau Very Good Trip avec l'ami Mishka.